Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque 18e de notre saison, première partie. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Et bonjour à nos invités, donc Jean-Hugues Silberman et Nadine Sanchez.
Bonjour.
Bonjour.
Tous deux candidats, alors il y a toujours un candidat et un suppléant ou une suppléante, c'est la règle, pour le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, donc la France insoumise. Vous êtes nos invités, ça veut dire que la troisième partie vous sera entièrement consacrée. Auparavant, comme aurait dit la Palice, même quand il venait pas à Radio Barque, s'il y a une troisième partie, c'est qu'il y en a une première et une deuxième. Alors le sommaire, Michel, dans cette première partie, tu comptes nous parler de ce que tu as appelé sur ton billet la fuite de Christine Breton du Parti Socialiste qui rejoint Macron. D'ailleurs, c'est pas un phénomène isolé, hein, on y reviendra.
Apparemment pas. Oui.
Après, tu veux dire un mot sur les archives de la ville de Narbonne, que bon, tu aurais eu quelques renseignements là-dessus. Dans une deuxième partie, alors alors il y a des travaux d'assainissement de la Robine actuellement, des travaux qui sont menés conjointement par la ville et par l'agglo, et c'est là où il y a des choses assez bizarres dans les répartitions des compétences des uns et des autres, ce qui ne facilite ni la tâche des exécutions des travaux et encore moins la tâche des politiques quand ils essaient de se mettre d'accord.
Mais on reviendra là-dessus. Par contre, ça entache la ville de nombreux panneaux.
Oui, en plus, voilà. Tu avais déjà fait remarquer cette chose-là. Alors à ce sujet, j'ai eu un appel de Monsieur Parra, adjoint au maire chargé de ce dossier et de ses travaux. On y reviendra tout à l'heure. Pour commencer donc, Michel, Christine Breton, oui, qui est une ancienne, on peut dire comme ça, secrétaire du Parti Socialiste à Narbonne,
c'est cela,
rejoint l'équipe Macron.
Oui, c'était un peu la surprise de ces 10 derniers jours, enfin en tout cas politique et concernant la petite scène politique narbonnaise. Et en soi, cette mise en marche, si je puis dire, de Christine Breton vers Emmanuel Macron est de ce point de vue un petit événement politique à l'échelle de notre société, mais quand même.
Oui, enfin, on avait déjà le cas d'Alain Perea qui avait clairement, en tant que
secrétaire, à ma connaissance, n'est pas membre du Parti Socialiste, même si, en fait, il a été élu avec une étiquette entre guillemets socialiste, et qui n'a jamais été le secrétaire de la section du Parti Socialiste de Narbonne, qui quand même n'est pas rien. C'est elle qui fournit l'essentiel des cadres, pour ne pas dire, en fait, des élus de la Narbonnaise, au moment des élections.
Donc c'est quand même des législatives. Une surprise.
Donc c'est une surprise, et ça concerne une personnalité quand même à l'échelle narbonnaise qui, de ce point de vue, me semble-t-il, est symptomatique d'un phénomène qui n'est pas particulier à notre territoire.
Ah, bien sûr.
J'ai pu constater, alors c'est pas un mouvement massif, hein, mais j'ai quand même pu constater dans d'autres territoires de notre chère France que nombre d'élus et de responsables socialistes qui se reconnaissaient dans une ligne, disons, sociale-libérale, alors plus ou moins républicaine, hein, hollandienne ou valsienne, mais en tout cas, pour tous ceux qui ont soutenu Manuel Valls pendant cette campagne des primaires organisées par le Parti Socialiste et ses micro-partis alliés, dans cette population d'élus-là, il y a un certain nombre d'entre eux qui, effectivement, s'interrogent.
Oui, il y a des états d'âme, pour dire le moins, hein, quand même.
Et qui, pour d'autres, carrément démissionnent et se mettent en marche vers Macron. Donc de ce point de vue-là, ce phénomène est tout à fait intéressant à observer, dans la mesure où il se passe dans une ville comme la nôtre, dans un département comme le nôtre, qui se caractérise, je parle pour la Fédération socialiste de ce département, qui se caractérise quand même, il faut bien le reconnaître, par une légitimité à l'égard des instances de leur parti quasiment totale. D'ailleurs, ce qui leur fait faire un grand écart idéologique et politique. Oui. Car aujourd'hui, je l'avais déjà chroniqué la semaine dernière d'ailleurs, entendre et lire surtout sous la plume de Madame Delga une espèce d'appel, à se mettre tous derrière Benoît Hamon, alors même qu'elle soutenait, Manuel Valls, dont lui-même disait qu'il y avait au sein même de son parti deux gauches irréconciliables sur le plan idéologique et politique. Bon, c'est quand même prendre non seulement les militants, après tout, pourquoi pas, bon, ils sont là aussi pour avaler des couleuvres, souvent, hein, ça fait pas, c'est un peu la règle du jeu,
si je puis dire,
mais c'est surtout se moquer des électeurs, qui aujourd'hui, on doit quand même le reconnaître cela, ont une intelligence minimale de ce qui se dit en politique et qui marque forcément les esprits. Donc voilà, à retenir ce mouvement-là et en se disant qu'effectivement, il est symptomatique d'un phénomène beaucoup plus général. Alors, qui se passe en France, hein, et que l'on peut constater un peu partout, et qui place le Parti Socialiste aujourd'hui dans une situation pour le moins ambiguë. D'ailleurs, on le constate de manière générale.
Quel sera l'avenir, évidemment.
Benoît Hamon, aujourd'hui, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui où je te parle, Jean-Claude, on ne peut pas dire que sa lisibilité faite politique, hein, au sens fort du terme, soit particulièrement évidente, marquée. Hein, on sent bien que dans ses propres troupes, et notamment par tout ce qui constitue ce que je dirais le marais, quoi, c'est-à-dire la majorité des députés et sénateurs socialistes qui ont soutenu la ligne de Manuel Valls, on ne peut pas dire que dans ce marais-là, hein, il n'y ait pas effectivement plus que des interrogations. Il y a des doutes très sérieux sur quant à savoir ce qu'ils vont faire, en fait, ou ne pas faire pendant cette campagne.
Oui, voilà. Ça va être une question qui va se poser de longue, comme on dit.
Qui est d'ailleurs posée entre parenthèses, on en reparlera certainement tout à l'heure avec nos invités, par Jean-Luc Mélenchon lui-même, en fait, qui pose clairement la question. Mais monsieur Hamon, je constate que vous n'avez touché à aucune des investitures, en fait, qui ont été faites avant que avant d'être élu.
Mais ne vendons pas la peau de l'ours avant que M. Silberman ait donné son point de vue.
Ça pour dire que cette interrogation n'est pas que la mienne, quoi.
Oui, bien entendu.
Elle est faite par un nombre d'acteurs politiques et pas des moindres.
Alors un mot, Michel, sur les archives de la ville de Narbonne, qui seraient, penses-tu, en mauvais état ou...
Non, c'est pas moi qui le pense, Jean-Claude. Il se trouve que j'ai reçu par voie postale, comme je l'ai indiqué dans un de mes billets. Je renvoie mes auditeurs, d'ailleurs, à mon blog et à ce billet, s'ils le souhaitent, hein, contre-regard.com. J'ai reçu par voie postale, en fait, de manière tout à fait surprenante, c'est la première fois que cela m'arrive, un document non accompagné d'une lettre, hein, expliquant pour quelle raison on me l'envoie et surtout qui me l'envoyait, qui en fait est un rapport de l'inspection générale du ministère de la Culture et de la Communication, qui date de 2011, je le précise quand même.
Hein. Donc le maire précédent, pour préciser les choses.
Jacques Bascou, hein, qui date de 2011 et qui pointe un certain nombre de problèmes posés par... non seulement la gestion des archives de la ville de Narbonne, mais surtout, essentiellement d'ailleurs, sa localisation au sein, je le précise pour nos auditeurs, de l'Office du tourisme actuel, l'ancienne bibliothèque de Narbonne. Et dans ce rapport, que j'ai lu attentivement, il est clairement indiqué que le lieu où se trouvent les archives aujourd'hui pose un sérieux problème. Alors je passe sur les termes techniques, hein. En cas d'incendie, parce que la configuration des locaux crée fait une situation où, en cas d'incendie, la probabilité que ces archives disparaissent purement et simplement en fait dans les flammes de cet incendie est très élevée, et que donc, dit l'inspectrice générale en question, parmi ses recommandations, il faudrait sortir ces archives de ce bâtiment et les installer ailleurs. Ce qui suppose effectivement que l'on fasse un investissement pour ce faire, ou qu'on trouve des locaux plus adaptés.
Alors, c'est un rapport qui date de 2011. Nous sommes en 2017. Où en sommes-nous
aujourd'hui?
Les choses ont-elles changé?
Non, du point de vue de la localisation, les archives se trouvent toujours au même endroit. Quant à la qualité du service qui est rendu, je n'en sais rien. Il a certainement dû y avoir, mais je n'en doute pas, des améliorations apportées quant à la qualité du service rendu. Encore que je constate que dans les commentaires faits sur Facebook, notamment sur cet article, un certain nombre d'usagers de ces archives pointent un certain nombre de critiques quant à la qualité de ce service-là. Mais ce que je sais, ou je crois savoir, soyons prudents, de ces archives aujourd'hui, c'est qu'elles sont, de fait, scindées en trois parties, si je puis dire, dans sa gestion. Le fonds du XIIe siècle, c'est-à-dire le fonds le plus précieux, d'une certaine manière, en tout cas celui qu'il faut préserver au maximum, serait aujourd'hui hébergé par la médiathèque de Narbonne, opération et transfert qui a été fait à l'époque de Jacques Bascou et d'après un spécialiste de la question, sans aucun protocole technique particulier qui garantirait effectivement que ce transfert ait été fait dans des conditions conformes en fait, aux techniques en usage dans la gestion de ces archives. Alors, c'est un spécialiste qui parle.
Deuxième
scission, si je puis dire, une partie de ces archives serait de fait gérée par les archives départementales qui sont dépendantes
elles sont gérées
par le conseil général et la troisième partie qui serait gérée par la ville de Narbonne. Je résume pour nos auditeurs pour qu'ils comprennent bien en fait l'absurdité de la situation institutionnelle dans laquelle nous sommes. Le fonds du 19e siècle serait géré donc par le Grand Narbonne.
Oui, voilà, et on
la communauté d'agglomération
retombe dans les problèmes.
Une partie des archives serait gérée par le conseil départemental, les archives départementales, et en fait le reste le serait par la ville de Narbonne, c'est-à-dire par la commune. Et le tout dans un, enfin le tout, en tout cas une partie du tout, si je puis dire, pour ajouter à la complexité, dans un local qui, du point de vue de l'inspection générale du ministère de la Culture, ne serait pas du tout adapté à la situation et ferait courir un grand risque à ce qu'il resterait des archives dans ces locaux.
Voilà
pour la situation qui me paraît là aussi caractéristique d'un état des relations politiques et institutionnelles dans cette ville. Tout à fait problématique.
Voilà. Et on marque
et qui mériterait effectivement d'être sérieusement revu.
Voilà. Et sur ce constat alarmant, on marque une première pause.